Vous entendez beaucoup parler de cette application qui fonctionne, semblerait-il, quand même bien côté ontarien, mais au Québec, c'est, on ne l'a pas encore, mais on travaille sur ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Pour nous en parler, on a le professionnel de la sécurité de l'information, M. Steve Waterhouse, qui est avec nous. Bonjour, M. Waterhouse.
Bonjour, Daniel.
Ce matin, évidemment, ben, c'est un sujet qu'on parle beaucoup. Puis il y en a qui disent, mais pourquoi c'est bon en Ontario, c'est pas bon au Québec? C'est quoi la différence? Et des questions qui se posent également. Est-ce que si on a de l'application, ça fonctionne par géolocalisation? Est-ce que ça fonctionne par YouTube? Alors, pas YouTube, mais plutôt par Bluetooth. Alors, plusieurs posent la question. Bon, on a besoin d'être éclairé à ce niveau-là.
Certainement. L'initiative vient du gouvernement fédéral qui a voulu lancer une application pour aider la population à comprendre où en est rendue la pandémie, la COVID-19. Mm-hmm. Et c'est associé avec l'Ontario pour faire son développement et son lancement le 31 juillet dernier. Donc, c'est une application qui ça veut être une application de notification d'exposition. Ça, c'est une différence entre le suivi de contact et la traçabilité des gens. Et ça, c'était dans les plans initiaux, il y a quelques mois, de pouvoir faire un suivi via GPS, comme l'Alberta a fait avec Alberta Trace Together, et que même le 9 août dernier, ils ont dit, ben finalement, on va aller avec une application moins évasive dans la vie privée avec l'application que le gouvernement fédéral met de l'avant. Donc, ça, c'est le concept fondamental. Pourquoi que ça protège la vie privée? Le gouvernement fédéral a opté aussi pour utiliser le corps de travail Apple-Google, qui, eux, fondamentalement, à partir du système d'exploitation des téléphones, va empêcher qu'il y ait utilisation du GPS, de microphone, de la caméra. Donc, garder ça vraiment le plus fiable possible côté protection de la vie privée, en même temps que d'échanger via le protocole Bluetooth pour détecter la proximité des autres appareils. Et suite à un usager mettre un code émis par le service de santé publique dans, okay, dans son téléphone, si jamais il est déclaré COVID positif, bien à ce moment-là, à partir de ce point, les autres téléphones vont se passer l'information disant que si jamais quelqu'un reste à 2 mètres pendant plus de 15 minutes, il y a un risque potentiel d'infection et les gens se feront servir à ce moment-là un avertissement de peut-être aller se faire vérifier par un service santé. Et comme vous avez dit, bien, c'est présentement seulement en Ontario que le déploiement est fait.
OK. Là, maintenant, dans le cas, okay, est-ce que si moi j'ai la COVID-19, c'est moi qui mets mon nom ou c'est le ministère de la Santé qui ajoute mon nom comme de quoi que je suis quelqu'un qui est atteint de la COVID-19?
Un point très important, Daniel, à vous apporter, c'est ce n'est pas, il n'y a pas, le nom demeure seulement avec le service santé. Donc, okay, c'est juste vous, avec le service santé, qui avez l'information comme quoi vous êtes COVID positif.
Okay.
L'ensemble de l'information, lorsque le code est donné, le diagnostic est posé et le service santé vous donne un code à entrer dans l'application. Donc, il y a une entrée manuelle d'un code et qui garde le tout anonyme. Et c'est ça le point, la pierre angulaire là-dedans, pour que les gens ne soient pas ostracisés ou qu'il n'y ait pas de difficulté, que les gens repèrent quelqu'un. Puis là, il y a une chasse aux sorcières qui s'engage.
Ouais.
Et de cette façon-là, en entrant le code dans l'application, ben ça diffuse que l'appareil, c'est toujours des chiffres là, qui vont se parler entre eux autres. Il n'y a aucune nomination pour dire c'est tel numéro de téléphone, l'adresse, okay, courriel, le nom de la personne, et qui garde ça, encore une fois, le plus anonyme possible pour dire que ben on était à proximité de quelqu'un et c'est là que le potentiel que vous avez peut-être été infecté. Mais chose importante, Daniel, c'est que l'application ne sait pas si vous avez été à 2 mètres pendant plus de 15 minutes, mais que les deux, vous avez des masques, bien, la probabilité que vous infectiez est quand même assez basse,
ouais,
mais c'est le principe de base que c'est juste pour laisser, encore une fois, savoir aux gens la possibilité que ça arrive.
OK, alors moi, je suis dans un restaurant, là, oui, avec ma conjointe, et tout à coup, sur mon application, on me fait signe que quelqu'un qui est pas loin, qui a la COVID, c'est comme ça qu'on retrace, mais on sait pas qui, là.
Exactement, mais ça ne diffuse pas en temps réel, parce qu'il faut pas... imaginons juste,
okay,
une minute, là,
ça,
que... Oui, parce qu'on se promènerait sur la rue ou, comme on dit,
oui,
on vient de dire, dans le restaurant, puis là, ça commence à biper. Non.
Là, tout le monde devient malade. Tu penses que tout le monde l'a, puis t'es le seul
qui est
correct.
Okay. Parce qu'il y a un facteur important aussi, la technologie Bluetooth, ça ne sert pas à faire de la mesure en temps réel. C'est pour ça que l'échange entre les appareils, ça se veut de donner un aperçu, puis en dedans de 24 heures, lorsque l'échange se fait avec un serveur centralisé pour faire les mises à jour entre les appareils, c'est là que c'est 24 heures après qu'on va le savoir. Mais ça donne encore juste un aperçu.
OK, bien à ce moment-là, s'il n'y a pas de nom, c'est pas en temps réel, mais on sait qu'on n'était pas loin d'une personne, puis on s'en rend compte par l'application. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter?
Ben, parce qu'il y a un cadre, eux autres, la façon qu'ils en ont parlé, justement, il y a un cadre légal que ça peut déborder et, comme exemple, un employeur peut imposer ça à ses employés, puis la personne, à ce moment-là, son emploi est précaire, ben, il est à risque peut-être de la perdre, il n'y a pas un choix, là, il se fait imposer quelque chose. Mais en même temps, l'exploitation des données, vu qu'il n'y en a pas des données nominatives personnelles, c'est un moindre mal, mais il y a un cadre d'utilisation qui est absent. Et le Québec, ça a été quand même l'une des seules législations au monde qui a fait un débat comme ça, là, comme on a eu les trois derniers jours, ça se termine aujourd'hui d'ailleurs, et qui amène justement des pistes de réflexion pour être capable de cerner si on comprend toutes les bases pour être capable de le faire de la bonne façon.
Et c'est normal, avec des vols d'identité qui arrivent depuis un bout de temps, c'est sûr que les gens, dès qu'on sait qu'il y a une application qui existe où on peut être pas nécessairement mentionné ou mais que ça peut toucher une autre personne, mais les gens s'inquiètent. Là, vous allez faire partie de la commission parlementaire, c'est quoi votre rôle?
Ben, à titre d'expert en cybersécurité, j'ai présenté hier à mémoire, et dans cette présentation-là, je fais allusion d'un côté technique. Un type d'application comme ça, c'est pas si précis que ça, et ça peut générer beaucoup plus de faux positifs. Okay. Donc, un peu dans l'exemple du restaurant qu'on donnait tantôt, il se pourrait à ce moment-là que même, je donnais moi, dans l'exemple, on pourrait être à ce moment-là une maison mitoyenne, et les têtes de lit donnent quand même proches l'un de l'autre, puis les applications détecteraient que on serait à proximité d'une autre personne parce que la radiofréquence passe à travers les murs, on le sait. Et c'est de cette façon-là, ça donne des genres de faux positifs. Même chose qui est établie lorsque le transport en commun, ben on est quand même assez proche des autobus, là, même s'il n'y en a pas autant, que les gens ne sont pas autant compactés, il reste toujours bien qu'on risque d'être à 2 mètres près de quelqu'un d'autre. Et même si on porte visière et le masque et tout, l'application ne sait pas ça. Fait que c'est là que moi je dis ça risque de faire du débordement dans les services santé, parce que si les gens suivent les directives qui sont émises par l'application, et ça aussi c'est ce que j'amenais, c'est que ça va créer une fausse dépendance. Les gens vont dire ah ben le téléphone va me le dire si je suis infecté, ils vont laisser tomber le garde, ils feront plus attention à la distanciation, lavage de mains, etc. Fait que ça risque d'engorger le système santé dépister davantage de gens et plus de faux positifs alors qu'il n'y aura pas nécessité de le faire.
Mais c'est pas une bonne idée d'aller de même si on l'a pas, d'aller se faire dépister à ce moment-là?
Oui, on est pour la bonne vertu, oui. Mais présentement, le système n'est pas prêt à absorber une recrudescence de personnes qui veulent se faire tester davantage, alors que les gens qui y vont avec les symptômes et tout, ben ils ont des longueurs de journée à attendre les résultats. Fait que s'il faut rajouter une couche de monde qui disent, ben regardez, l'application m'a averti, faut que je me fasse tester, je crois que les éléments du service santé sont pas prêts à la recevoir, donc il faudrait peut-être juste préparer plus de tests à l'avance s'ils vont dans cette direction-là, et pour qu'ils puissent à ce moment-là les gens les recevoir et pas attendre 10-15 jours avant d'avoir le résultat, et bien quelques jours alors que tout le monde s'attend de que ça soit rapide comme résultat, oui.
Est-ce que je comprends bien ce que vous me dites? C'est que, au fond, l'idée est bonne, mais on n'est pas encore rendu à avoir atteint un niveau de confiance. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour que, justement, l'application soit plus sécuritaire. Est-ce que c'est ce qu'on comprend?
Oui, Daniel, et pour que ça soit aussi des résultats intéressants de travail avec ces genres d'applications-là, il faut qu'il y ait un taux d'acceptation dans la société d'environ 60 à 70. Donc, il y a un débat, est-ce que 15 ou 20 ça fait la job pareil, alors que 60-70, ben il y a des modèles mathématiques qui ont été émis. Donc, statistiquement, si deux appareils viennent à proximité, donc ça fait pas grand-chose s'il y en a 10 et 2 en France, exemple, que ça a été l'absorption. L'adoption, pardon. Et de cette façon-là, s'il n'y en a pas assez dans la population, ben c'est pas des résultats qui sont intéressants. Fait que si seulement 10 à 15 de la population au Canada, on est quoi? Maintenant, on est 36 millions. Fait que s'il y a 3,6 millions, c'est pas toutes les 36 millions, il y a des cellulaires. Fait que de cette proportion, mettons juste un chiffre rond, là, on met ça à 30 millions, bon, bien, s'il y a 3 millions de personnes seulement au pays qui se prémunit de cette application-là, qui se sert de le téléphone intelligent, c'est quoi la probabilité qu'ils viennent en contact, les 3 millions à travers l'étendue qu'on a? Fait que c'est là que ça ne sert pas à grand-chose. Et dans tous les pays du monde, il n'y en a pas un qui a franchi la barre du 40 %. Bon. Et c'est pour dire que si il n'y a pas une grande adoption dans la population, ça n'amènera pas à grand-chose. Autrement dit, le risque va être très faible de rencontrer un autre téléphone que l'application, puis qu'à ce moment-là, il y ait un échange. Alors, au Canada, il y a présentement juste l'Ontario. Là, l'Alberta s'aligne avec l'application fédéral. Il y a le Terre-Neuve-Newfoundland qui va s'ajouter à la liste. Donc, progressivement, pas mal toutes les provinces se regardent d'un œil distant et se disent, ben, on va voir comment ça y va et on va possiblement rentrer dans l'adoption, de nous aussi, de cette application-là. Mais encore une fois, c'est une question de nombre pour que ça soit efficace.
OK, deux petites questions bien, bien rapides parce qu'il faut qu'on se quitte. Ouais. Juste nous dire, premièrement, ça prend un téléphone cellulaire intelligent assez récent.
Oui, parce que ça, c'est l'autre affaire. Ça prend un iOS, un téléphone qui utilise iOS 13.5 au minimum, puis un Android avec version 6.
OK. L'autre chose, moi, j'habite du côté nord de la rivière des Outaouais. Donc, l'autre côté de la rivière, j'ai l'Ontario. Étant résident du Québec, est-ce que je pourrais l'avoir pareil, vu que l'autre côté, l'Ontario est collé sur chez moi?
L'application présentement, elle est disponible pour tout le monde qui veut la télécharger. C'est juste que présentement, le Québec n'a pas statué si le service de santé va contribuer. Okay. Donc, il n'y a pas échange, il n'y a pas de protocole d'échange actuellement à travers le Canada. Okay. Ça, c'est la partie qui reste à travailler pour que ce soit interopérable à travers le pays.
C'est toujours très intéressant de vous entendre. Je vous écoute souvent, d'ailleurs, au 98.5. Vous êtes souvent là sur des ondes. Allez, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Vous nous avez éclairé pas mal, je trouve, professionnel de la sécurité de l'information. Merci, M. Steve Waterhouse.